Force. La Force avec Jean-Simon Buis.
Bon matin à tous. On est mardi le 3 décembre 2019. Il est 5h. Bienvenue dans cette amorce. Merci d'être là chaque matin. Ça fait toujours plaisir de commencer la journée avec vous. Et c'est d'autant plus plaisant qu'on poursuit sur la belle lancée météo qu'on a depuis déjà quelques jours avec des températures fort confortables, pas trop froid. C'est sûr que ça commence à être pas mal l'hiver. Là, on oublie les températures au-dessus de zéro, mais on garde des températures qui sont pas trop glaciales parce qu'aujourd'hui, le maximum qui est prévu est à moins 3 et c'est généralement ensoleillé pour toute la journée. La bonne nouvelle, c'est que demain, on attendait pour le 4 décembre des températures un peu plus nuageuses. On attendait un temps plus nuageux. Puis finalement, ce qu'on a, c'est plutôt du soleil en début de journée avec un ennuagement seulement en fin d'après-midi, ce qui fait en sorte qu'on devrait profiter encore une fois de quelques rayons de soleil. Le maximum est prévu à moins 5. Jeudi, retour des nuages et d'un peu de neige, mais on parle seulement de 30% de risque d'averse de neige, donc il n'y a vraiment rien là. Maximum de moins 2. Vendredi, des nuages avec un maximum de moins 5 et présentement, à Québec, c'est un petit moins 7 avec pas trop de vent, donc c'est vraiment franchement confortable, là. Faites-vous-en pas. Côté météo, c'est assez bien ce matin. On commence tout de suite avec ce qu'il y a dans l'actualité. Il y a pas mal de choses parce que hier, c'était jour d'élection. Élection partielle dans la circonscription de Jean Talon à Québec. Et on l'attendait pas mal, cette élection-là. Pas parce que, évidemment, ça touche tout le monde. C'est juste une circonscription à travers le Québec. Puis même à l'échelle régionale, ben ça touche un certain nombre de personnes dans un certain nombre de quartiers. Sauf que un peu plus d'un an après l'élection du gouvernement Legault, ben une élection partielle, ça peut servir de baromètre un peu. Hein. Dans les dernières semaines, on a parlé, entre autres, de fin de lune de miel pour François Legault, d'erreur du gouvernement caquiste. On a dit que ça allait être une élection serrée. Finalement, pas en tout. C'est peut-être ça la surprise. Tout le long de la campagne électorale dans cette circonscription-là, on se demandait si les partis d'opposition allaient chauffer la CAQ, allaient leur donner une bonne bataille, quitte à gagner, parce que la circonscription Jean Talon, pardon, est libérale depuis 1966. Ça fait un sacré bail. Ça n'a jamais été autre chose que rouge. Jusqu'à hier. Parce que la députée qui l'a emporté, la candidate qui l'a emporté, c'est la candidate caquiste Joëlle Boutin, qui devient ainsi la première députée non rouge, non libérale de cette circonscription. Les résultats sont même pas serrés. Ça a été une victoire très facile de Joëlle Boutin à 43% des votes, 4200 voix devant la candidate Gertrude Bourdon du Parti libéral du Québec. Derrière, c'est Québec solidaire avec 17% et le PQ ferme la marche avec 9%. Donc, vous voyez que finalement, il n'y a personne qui était vraiment dans la course et que Joëlle Boutin était fin seul en avant. Pour Gertrude Bourdon, c'est une deuxième défaite dans une tentative de se faire élire sous la bannière libérale. Elle s'était fait défaire dans la circonscription de Jean Lesage lors des élections du 1er octobre 2018. Et là, cette fois-ci, elle est défaite à nouveau dans Jean Talon. Je vais vous faire entendre un peu les intervenants d'hier. D'abord, la gagnante, Joëlle Boutin. Pour elle, c'est un rêve qui devient réalité.
Wow, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment un honneur pour moi de me retrouver devant vous comme la nouvelle députée de Jean Talon. Vraiment, c'est surréel. C'est une victoire historique. Je l'ai rêvé. J'ai rêvé qu'on dise ce soir, c'est une victoire historique dans Jean Talon. Puis ça arrive maintenant. Puis c'est grâce à vous.
Mais plusieurs députés caquistes qui étaient présents, évidemment, pour assister à cette victoire de leur nouvelle collègue, ainsi que le premier ministre François Legault qui était là, puis qui pouvait pas cacher son enthousiasme et sa joie, bien entendu.
Il y a un an, il y avait un grand vent de changement au Québec, mais il restait une petite forteresse, hein, une circonscription qui dérougissait pas depuis plus de 50 ans. Puis l'année dernière, Joëlle l'a ébranlée. Puis aujourd'hui, elle a fait basculer Jean Talon!
À toute fin pratique, pour les libéraux, dans l'est du Québec, il reste absolument rien. Là. L'est de Montréal, c'est il n'y a plus une seule tache rouge. C'est essentiellement sur l'île de Montréal, dans l'Outaouais, qu'il reste des circonscriptions libérales. Pour le reste, ben il y avait Jean Talon et là, c'est terminé. Donc, vous vous doutez qu'au rassemblement du Parti libéral, les faces étaient un petit peu plus longues que chez les caquistes. Par contre, la candidate Gertrude Bourdon a dit que c'était pas ses derniers pas, ses dernières armes en politique. Elle a dit qu'elle voulait continuer à s'impliquer. Je vous invite à l'écouter.
Alors à vous tous et toutes, je vous dis à la prochaine fois.
Et la passion de se représenter, elle semble être là.
Ah oui, ben, c'est-à-dire que quand on est militant, on veut aider le parti. Alors moi, tout, je dis à mon équipe, l'équipe de militants, l'équipe de la permanence, moi, je suis là pour aider.
Donc, on risque de se revoir en 2022?
Je ne sais pas la date, là, mais c'est sûr qu'on devrait se revoir. En tout cas, une chose est sûre, des fois, on est en avant, des fois, on est dans l'ombre. Je vais être là.
OK.
Je vais être dans le parti.
Et le chef par intérim, Pierre Arcan, qui n'a eu d'autre choix que de concéder la défaite, mais qui s'est quand même porté à la défense de Gertrude Bourdon, qui l'a pas toujours eu facile dans l'opinion publique. Faut dire qu'elle a pas mené nécessairement une mauvaise campagne cette fois-ci. Elle a changé un peu son approche en lien avec la politique, en essayant de se faire un peu plus proche des gens. On dit que c'est une espèce de Gertrude Bourdon 2.0. Alors son chef, Pierre Arcan, s'est porté à sa défense et a vanté son travail pendant la campagne électorale.
Non, pas du tout. Notre candidate a été une personne qui a su unir les libéraux. Et moi, pour avoir été avec elle sur le terrain, je peux vous dire que elle a fait un travail formidable et elle était appréciée du public. Mais clairement, je pense qu'actuellement, les gens ont décidé de voter pour le gouvernement. Les gens aussi, n'oublions pas, veulent avoir toujours un député qui est plus près du pouvoir. Il y a toutes sortes de raisons.
Il y avait Québec solidaire aussi qui avait de bons espoirs de faire élire leur candidat Olivier Bolduc dans la circonscription, en profitant du fait que Jean Talon est une circonscription où il y a pas mal d'étudiants, qui étudient en tout cas, pas nécessairement qui y habitent, et c'est peut-être ça qui a été un peu ce qui a coulé leur navire. On est allé de plusieurs explications hier, là, notamment Manon Massé qui a dit « ben on a essayé de faire inscrire des jeunes, finalement ils n'ont pas été capables en raison de problèmes bureaucratiques ». Donc on a mis beaucoup le blâme là-dessus, sur l'impossibilité de certains jeunes qui voulaient voter de s'inscrire à la liste électorale, ce qui fait en sorte que ça a un peu coulé Olivier Bolduc, d'après eux. Je vous invite à écouter le co-chef de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui explique un peu ce qui se serait passé et le fait qu'on n'a pas été capable d'aller chercher ce vote des jeunes si précieux pour Québec solidaire.
On espérait causer la surprise, mais pour causer la surprise, on avait besoin d'un vote massif des jeunes. Et force est de constater que ça n'a pas été le cas. On a eu de la difficulté, d'ailleurs, tout au long de la campagne, à rejoindre les jeunes, à les encourager à aller voter. C'est un des bilans qu'on tire. Dans une élection partielle, le vote des jeunes est plus difficile à faire sortir. Et ça explique qu'on n'a pas été en mesure de causer la surprise qu'on souhaitait causer ici dans Jean Talon, bien qu'on maintienne nos appuis.
Alors voilà, le résultat, c'est que le portrait à l'Assemblée nationale fait en sorte qu'il y a désormais 76 députés caquistes, très, très forte majorité pour François Legault, qui peut y voir un feu vert pour continuer à aller de l'avant avec ses promesses qu'il remplit de façon assez ponctuelle depuis son arrivée au pouvoir. Parmi les différentes analyses qu'on a dans les journaux de certains chroniqueurs, bon, entre autres, on met en relief que le fait que, par exemple, le premier ministre du Manitoba, la semaine dernière, soit monté aux barricades par rapport à la loi 21 sur la laïcité, qu'on ait eu un peu ce débat-là qui revienne dans l'air du temps, ça a probablement donné un coup de main à la CAQ. Il y a certaines personnes qui ramènent le fait aussi que, bon, tout ce qu'il y a eu autour de Québec solidaire s'est résumé pas mal aux fresques de Catherine Dorion dans les dernières semaines, alors que ça a probablement pas donné un coup de main à Québec solidaire. Et beaucoup de questions, de gens se posent des questions sur la viabilité du Parti libéral du Québec ailleurs qu'à Montréal. Et ça, c'est une excellente question. Il va falloir qu'il y ait toute une remise en question, une nouvelle identité qui soit assumée par ce parti-là, qui visiblement ne parvient pas à susciter l'enthousiasme, du moins chez l'électorat francophone. Pour le PQ aussi, c'est assez inquiétant, hein, parce que Jean Talon, justement, c'est une circonscription qui est francophone, très majoritairement, et ça n'a pas eu l'air de pogner ben le nouveau message axé sur l'indépendance. Là. Indépendance qui était même sur les pancartes, c'est un maigre 9% qu'on est allé chercher du côté du Parti québécois. On passe de la politique québécoise au transport en commun et la politique municipale. Il y en a été question beaucoup hier parce qu'il y avait la présentation du plan de la Ville de Québec, des impacts du réseau structurant de transport en commun sur l'achalandage des déplacements. Et là, je vous avertis, c'est un moyen casse-tête pour les automobilistes qui s'annoncent, malgré le fait qu'on a essayé d'être un peu rassurant du côté de la Ville de Québec. Je vais vous avouer que moi, en tant qu'automobiliste, je me gratte un peu la tête en me posant la question comment on va réussir à passer à travers tout ça. Premièrement, les travaux. Là, vous n'êtes pas sans savoir que les travaux vont être très, très difficiles, très complexes, autant pour les commerçants que pour les résidents, sur plusieurs kilomètres. Alors, il va y avoir des impacts pendant plusieurs années sur la circulation pendant les travaux. Et là, on apprend qu'en plus de ça, lorsqu'il va être mis en service, bon, on se doutait qu'il y aurait certains changements d'aménagement à la circulation, mais je savais pas que ce serait à ce niveau-là. On pourra plus tourner à gauche à plusieurs endroits. En fait, il y a 148 carrefours où est-ce qu'il va avoir une plateforme pour le tramway, une plateforme surélevée pour faire passer le tramway sur les rails, qui va faire en sorte que les automobilistes pourront plus tourner à gauche, pourront pas la franchir. Des intersections aussi névralgiques que Charest et Saint-Sacrement pourront plus nécessairement être traversées. Il va falloir passer par des détours. Il va y avoir plusieurs endroits où est-ce que ça va être très difficile de circuler à cause de ça. Il y a 86 intersections où on va carrément interdire le virage à gauche aussi. Donc ça donne vraiment un casse-tête pour les automobilistes, là. Et c'est certain qu'il va y avoir des effets importants sur la circulation. Ça, c'est ça, il n'y a aucun doute. Par contre, du côté du RTC de la Ville de Québec, on dit que, compte tenu du transfert modal, du nombre de personnes qui devraient passer au tramway, d'après eux, lorsqu'il va être mis en service, ça devrait réduire le nombre de véhicules sur les routes. Donc, il devrait y avoir un gain pour les usagers du transport en commun ainsi que les automobilistes. C'est un petit peu difficile à croire compte tenu de tout ce qu'on a présenté hier. Mais bon, je vous présente quand même ce que la Ville a présenté comme argument concernant cet achalandage et ces aménagements différents sur les routes. D'abord, le maire Labeaume qui a dit, ben oui, il va avoir une adaptation à faire, sauf que je pense que les automobilistes vont trouver facilement le moyen de contourner ces obstacles-là.
Il n'y a pas de problème. Ça va oui. Être bien. On n'est pas la première ville au monde qui installe un tramway. Les Québécois sont pas plus idiots que les autres dans le monde. Là. Pourquoi des gens de Québec comprendraient pas par où passer maintenant qu'il y a un tramway, alors que les autres ont compris, puis on est d'une société moderne ici, là. Alors, c'est pas un problème, on va s'organiser. C'est vrai. Quelques jours d'ajustement, puis ça va se régler.
Est-ce qu'il y a de bons exemples de villes de lesquelles vous vous inspirez pour ça? J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de comparatifs.
Regarde la liste des villes qui ont eu des tramways en Occident, là. Alors aujourd'hui, là, si les gens étaient de bonne foi, pour eux, c'est une bonne nouvelle pour l'avenir du trafic à Québec. Si j'étais automobiliste, je le pensais comme ça. Puis c'est assez simple, c'est mathématique. C'est même pas compliqué, c'est mathématique.
Et il a renchéri M. Labeaume en affirmant que les Québécois seraient tout à fait capables de, comme il l'a dit dans le dernier extrait, là, de trouver des moyens de contourner. Puis il a dit, on n'est pas plus idiots qu'ailleurs dans le monde. Et en passant, si vous avez besoin de chemin dans la ville, moi, je connais pas mal les raccourcis.
Si j'habite une rue perpendiculaire, je vais me trouver un chemin qui va faire en sorte que je vais me rendre chez nous. Il n'y a pas de gros problème là.
Mais à part le chemin,
moi, je suis le roi des shortcuts à Québec. Alors appelez-moi, je vais vous dire par où passer.
Bon, alors, je ne sais pas s'il va laisser son numéro de cellulaire pour les automobilistes qui vont vouloir avoir ses conseils de circulation au GPS dans la ville de Québec. Nouvelle mouture avec le réseau de transport en commun structurant. Mais bon, M. Labeaume qui semble assez confiant par rapport à ça. Sans grande surprise, le chef de l'opposition officielle est sorti en lien avec ça, en affirmant carrément que le maire Labeaume venait d'offrir une déclaration de guerre à l'automobile et aux automobilistes.
Le constat, c'est qu'on savait qu'il y aurait des problèmes de circulation majeurs à Québec pendant la construction. Là, maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura des problèmes de circulation majeurs aussi après la construction du projet de tramway. Et aujourd'hui, l'administration Labeaume a officiellement déclaré la guerre à l'automobile. C'est le constat qu'on fait aujourd'hui. Il n'y a personne de rassuré à Québec.
Alors, 25-226, vous, est-ce que vous êtes rassuré? Est-ce que vous êtes du côté du maire Labeaume? Vous croyez que les bénéfices vont être plus importants que les inconvénients? Ou bien le fait que dans près de 200 intersections dans la ville de Québec, vous serez plus capable de traverser ou de tourner à gauche, ben ça vous fait réaliser que peut-être que les gains seront pas si faciles que ça dans la circulation, puis vos trajets risquent d'être d'autant plus compliqués. Écrivez-moi au 25-226, ça me fait plaisir de vous lire là-dessus. Je termine parce qu'il y a eu deux tristes faits divers hier en matinée qui ont coûté la vie à deux personnes. D'abord, du côté de l'autoroute Laurentienne, hier, il y avait eu un accident assez grave en direction nord impliquant plusieurs véhicules. C'est un individu qui aurait perdu le contrôle de son véhicule. Par la suite, les autres ont été emboutis, puis il y a beaucoup de gens qui faisaient état de la gravité de l'accident, des débris sur la route, des véhicules en très mauvais état. Ben finalement, le conducteur qui est à l'origine de ce carambolage-là est décédé. C'est un homme dont on a constaté le décès à l'hôpital. Et la commission scolaire de la capitale a envoyé une lettre aux parents de l'école secondaire Roger Comtois hier, indiquant que c'était un professeur à l'école secondaire Roger Comtois. Alors, c'est évidemment un triste jour pour le personnel enseignant, pour les élèves, pour les gens de cette commission scolaire-là, bien entendu. Et l'autre fait divers dont je veux vous faire état, c'est la découverte d'un corps calciné sur un véhicule tout-terrain incendié qui a été découvert en fin d'avant-midi hier. C'était dans le secteur de Loretteville, dans un secteur boisé, assez isolé, là, dans le coin de Loretteville, Lac-Saint-Charles, pas loin du boulevard Valcartier, donc entre les deux, en quelque sorte. Il y a des gens qui ont vu une fumée très, très noire s'élever dans un boisé. Donc, ils ont contacté la ville de Québec. Et les pompiers, quand ils sont arrivés, ont trouvé le 4 roues complètement calciné avec le corps de la dépouille d'une personne complètement calcinée. Également, on parle ici de mort évidente, c'est-à-dire qu'on n'a pas amené la personne en centre hospitalier. C'était évident que la personne était décédée. Mais pour l'instant, on a très peu d'informations en lien avec ce qui a pu se passer. Il n'y a aucune thèse qui n'est écartée par la police de Québec en ce moment. Il est 5h15, on va prendre une courte pause. Et dans quelques instants, on va jaser avec Dan de sport.
Alerte de lutins à SDL. Ils sont partout. C'est la fête des lutins dans votre centre commercial préféré. Ces joyeux plaisantins vous montreront comment transformer une canne en bonbon en personnage ou fabriquer de la slime magique. Animation, lutine maquilleuse et surprise à profusion. Les enfants pourront faire un tour de trait du Père Noël à petit prix. Participez à la fête des lutins à FDL seulement jusqu'au 24 décembre. Après, ils repartiront pour le Pôle Nord. Un autre événement FDL. Détails sur fdlcentrecommercial.com.
Chez Sportium, dès mercredi, c'est la promotion 1, 2, 3, cadeau. Pour chaque tranche de 100 $ d'achat, recevez une carte cadeau de 25 $ à offrir ou à garder. Une carte cadeau de 25 $. À vos marques, à vos cartes. Plus de choix, plus de conseils. Sportium.
Il y a des histoires vraies qui sont si fantastiques qu'on pourrait penser qu'elles ont été fabriquées de toutes pièces.
Les derniers vilains, la fantastique épopée des lutteurs de la famille Vachon.
Mad Dog est devenu un héros pour tous les Canadiens. Son succès, c'est que le monde haïssait.
Robert Lepage le décrit comme un film remarquable, drôle, intelligent et touchant. Les derniers vilains, un documentaire aux allures de fiction, aussi loufoque et déconcertant que l'ont toujours été la lutte et les Vachons. Au cinéma dès le 6 décembre.
Marie-Mé, une nouvelle ère, un nouveau spectacle. À la salle Albert Rousseau de Québec. Marie-Mé, une artiste incomparable, un spectacle impressionnant. Avec ses plus grands succès revisités et ses nouvelles chansons. Les 6 et 7 mars, 24 et 25 avril, 28, 29 et 30 mai. Billets sur marimé.com.
Prendre un métro vide,
ça commence toujours bien la journée.
Et faire le vide,
ça fait tout le temps plaisir.
Mais avoir le ventre vide,
ça, c'est moins drôle.
Chaque année, la moitié des comptoirs d'aide alimentaire manque de denrées. Textez « remplir » au 20222 pour faire un don de 10 $ à la Guignolée des médias ou directement chez Provigo, Maxi, Jean Coutu et Via Capital.
Avec Jean-Simon Buis. Lundi au vendredi, 5h, au FM 93.
Il est 5h18 au FM 93. Merci d'être là. On est mardi, déjà le 3 décembre 2019. Bienvenue dans l'Amorce. Et voici ce qui vous attend côté météo dans les prochaines heures. Aujourd'hui, maximum de moins 3, généralement ensoleillé. C'est du beau temps toute la journée pour aujourd'hui et on devrait ressentir quand même un peu plus froid. Là. On parle de refroidissement éolien encore une fois, mais c'est pas si mal ce matin. Là. C'est sûr qu'il y a un peu de vent, mais c'est pas si mal. La nuit prochaine, on devrait descendre aux alentours de moins 11 comme minimum. Demain, mercredi, il y a de l'ennuagement qui est prévu en début de journée, mais on va avoir moins 5 comme température. On reste assez confortable. Jeudi, ça réchauffe un petit peu, maximum de moins 2. Mais retour des nuages avec 30% de risque d'averse de neige. Vendredi, des nuages avec un max de moins 5. À long terme, pour samedi, il y aurait du soleil qui se profile à l'horizon. Et en ce moment, on a moins 7 à Québec. Bon matin, Dan.
Salut, Jean-Simon.
On jase de hockey un peu.
Oui, on jase de hockey parce que les Devils avaient un match à jouer hier face aux Sabres à Buffalo. Et après une période de jeu, donc 20 minutes chronométrées, sous-entend qu'on arrête le chrono quand il y a sifflet de l'arbitre, c'était 5-0 après 20 minutes.
Ouch.
Et les Devils en arrachent. Quand t'en arraches, puis tu vas jouer à Buffalo, c'est pas une puissance de la Ligue, les Sabres, c'est une équipe correcte sans plus. Il faut pas que tu perdes 5-0 après une période. Finalement, ça s'est terminé 7-1. Et l'entraîneur-chef, M. Hines, est évidemment sous les projecteurs. On pourrait peut-être lancer un pool à savoir lequel des entraîneurs-chefs va être congédié en premier, et son nom reviendrait parmi beaucoup de réponses qu'on pourrait obtenir des amateurs de hockey. Les Devils sont 30e sur 31 formations. Pourtant, au dernier repêchage, ils ont mis la main sur Jack Hughes, le tout premier choix du repêchage, grâce à la loterie. Ils ont Taylor Hall cette année qu'ils n'avaient pas l'année dernière parce qu'il a été blessé. Il a joué seulement une trentaine de matchs. Et puis Piquet Subban s'est amené dans une transaction où les Devils ont à peu près rien sacrifié, c'est-à-dire deux jeunes défenseurs de la Ligue américaine puis des choix de repêchage. Donc cette équipe-là, plusieurs pensaient qu'elle allait être vraiment dominante ils sont 30e sur 31. Donc, le coach est plus qu'en danger. Ouais. À l'inverse, les Wings ont perdu 10 matchs de suite, mais les Red Wings ont su qu'ils sont mauvais. Fait que ça, c'est pas si grave. Ben, c'est pas si grave. Peut-être qu'un jour, l'entraîneur va être congédié.
Peut-être pour les partisans un peu aussi.
Ouais, pas sûr qu'il va en perdre 27 en ligne, puis il va garder son poste. Mais au moins, c'est une différence. Ouais. Les Red Wings sont en reconstruction alors que les Devils, on s'attendait à ce qu'ils soient bons. Le coach Gates se poursuit. L'entraîneur adjoint, Mark Crawford des Blackhawks, a été mis à l'écart pour quelques temps parce qu'il y a eu des allégations de Sean Avery, l'ancien dur à cuire de la Ligue nationale, à l'effet que Crawford l'avait brassé pendant un match.
C'est un peu ironique venant de Sean Avery.
Entièrement d'accord avec toi. C'est sûr que Avery n'est pas le plus crédible pour ce genre d'allégations-là, mais chez les Blackhawks, on prend ça au sérieux. Et le dernier point sur lequel je veux m'arrêter avec toi ce matin, c'est Johan Frenzen, c'est un ancien ailier des Red Wings de Détroit. Il a dit au sujet de Mike Babcock, c'est la personne la plus désagréable que j'ai côtoyée dans ma vie. Ça, ça fait mal. Babcock a été congédié par les Leafs il y a à peu près 2 semaines.
Oui.
Et ça finit plus, les allégations à son sujet. J'ai l'impression... Je pense que la journée même ou le lendemain de son congédiement... Non, c'est pas vrai, j'étais parti en vacances, mais pas longtemps après, tu m'as demandé, tu penses-tu qu'il va se retrouver une job dans la Ligue nationale? Ouais. Puis je t'avais répondu oui, parce que ça a beau pas avoir marché à Toronto, à un moment donné, ailleurs, il y a une équipe qui va se dire « Hey, on a besoin d'un gars d'expérience, on va chercher Babcock. » Là, je suis de moins en moins sûr parce qu'il y a trop d'allégations qui sortent sur Babcock.
Merci beaucoup, Dan.
À tantôt.
À tout de suite. Je veux attirer votre attention sur la une du Journal de Québec ce matin. Avant la pause, on parlait du réseau structurant de transport en commun, là, les nouvelles informations en lien avec l'achalandage qui peuvent faire craindre un peu le pire aux automobilistes. Mais il y a une autre nouvelle en lien avec le transport en commun. Ça concerne Shannon et des fois, ça peut peut-être soulever la question si le transport en commun à tout prix, c'est nécessairement la bonne solution. On a souvent l'impression qu'il y a plusieurs administrations qui disent « Ah, dès qu'on met du transport en commun, nécessairement, il y a un bon transfert modal. Il y a des gens qui délaissent leur automobile, puis ça fait en sorte que ben, ça désengorge les routes et les gens adoptent ce nouveau moyen de transport-là. » Mais là, à Shannon, ils ont mis en place un projet pilote depuis mars 2019 qui s'appelle le Circuit 33. C'est un minibus. Moi, je suis dans le secteur de Val-Bélair. Je l'ai déjà vu passer là, à certains endroits. C'était supposé donner un peu une option aux nouvelles familles, parce qu'il y a beaucoup de jeunes familles qui s'installent à Shannon. C'est une municipalité qui est très, très jeune. Alors, on voulait offrir cette option de transport en commun-là, prendre un minibus qui traverse de Shannon, passe par Val-Bélair et se rend à l'angle des rues Wilfrid Caron et Racine dans le secteur de Loretteville et de Lac-Saint-Charles. Alors, c'était supposé être une option qui pourrait être prise par les jeunes familles. Or, on apprend un peu les coûts et les déboires de ce service-là depuis qu'il est mis en place. En fait, par année, ça coûte environ 100 000 $ pour l'équivalent de 4 passagers par jour. Donc, autrement dit, 375 $ par jour sur la route pour un petit véhicule de 24 places avec Wi-Fi qui circule à peu près 250 jours par année. Ça fait en sorte que l'équivalence qu'on fait, c'est tant qu'à ça, on aurait peut-être pu payer une voiture à tout le monde et ça aurait coûté pas mal moins cher que de mettre en service un transport en commun. Ça démontre que au Québec, puis à Québec en général et dans la Couronne-Nord, tout ça, comme la densité n'est pas très, très forte, dans certains secteurs, le transport en commun n'est juste pas une option. C'est pas logique de partir en autobus de Shannon pour se rendre à la Couronne-Nord. C'est un peu normal que les gens utilisent leur automobile. Alors, t'as bien beau avoir un excellent service, t'as bien beau avoir une ligne qui est mise en place directement pour aider les gens à prendre une nouvelle option de transport, bien, quand tu te retrouves à un endroit où est-ce qu'il y a des fortes distances, pas beaucoup de densité de population, bien, souvent, tu réussis pas à rentabiliser ça. Et c'est un peu la crainte que beaucoup de personnes ont en lien avec le transport en commun à tout prix, qui est une très belle option quand elle est bien mise en place. Ça peut faire en sorte qu'il y a moins de voitures sur les routes, ça peut faire en sorte qu'il y a des gens qui se déplacent facilement. Sauf que dans ce cas-ci, vous voyez qu'à Shannon, c'est pas vraiment un grand succès jusqu'à maintenant et ça va se poursuivre, ce projet pilote-là, jusqu'en 2022. Un petit mot en terminant sur une nouvelle annonce concernant la place Jean Béliveau. Vous savez qu'on a fait beaucoup de bruit concernant le type de statues qui ont été mises en place depuis le début à la place Jean Béliveau. On pense à la statue de Jean Béliveau qui ressemble à un F-35 de profil. On pense aux joueurs de hockey sur table, les frères Stachny, qui n'ont pas fait l'unanimité non plus. Et on sait qu'il y a des joueurs pour représenter les Remparts et les Bulldogs, ainsi que les Nordiques de l'époque de l'AMH qui s'en viennent et on a un peu peur de la façon dont le concept va être traité côté artistique. Ben, il va y avoir d'autres statues qui vont être implantées sur la place Jean-Béliveau également. Il y a beaucoup de gens qui ont demandé des statues de bronze pour représenter des joueurs. Ben, sachez qu'il va en avoir, sauf que c'est pas en lien avec les joueurs dont on connaissait déjà le fait qu'il y aurait un hommage qui serait rendu. En fait, ça va être Manon Réaume, la première femme à avoir gardé les buts dans la Ligue nationale, qui va avoir droit à un hommage en bronze en compagnie d'un autre joueur, Sylvain Côté, un autre joueur de la LNH, mais à l'époque où est-ce qu'il était enfant, à l'époque du tournoi Pee-Wee. En fait, le but de ces statues-là, c'est de rendre hommage à l'action bénévole, particulièrement celle des familles d'accueil au tournoi Pee-Wee. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir deux bronzes qui vont être placés sur la place Jean-Béliveau. C'est une œuvre qui va être réalisée par Guillaume Dessire au coût de 250 000 $ Et il va y avoir des fonds notamment qui vont venir de la fondation J'ai ma place. Alors, c'est deux statues de bronze qui vont être implantées sur la place Jean-Béliveau aux côtés des autres œuvres d'art un peu plus contemporaines. Alors, vous risquez d'avoir un moyen melting pot de statues de bronze et d'expérimentations artistiques diverses. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner dans quelques années, la place Jean-Béliveau, là, pour la personne qui va débarquer là puis qui va essayer de comprendre l'espèce de message général de l'endroit. Ça risque d'être un petit peu éclectique, disons. 5h25, merci d'avoir été avec moi dans l'amorce. On se reparle sans faute demain matin dès 5h et dans quelques minutes, c'est Bouchard en parle. Ciao!
Les meilleurs moments sont disponibles maintenant sur fm93.com. Bouchard en parle commence après cette courte pause.